Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Antidote. Alors aujourd'hui, je vous propose, une fois n'est pas coutume, une chronique en forme d'adresse. Oui, oui, une adresse toute particulière à mes amis écolos, transitionnistes et puis tous ceux qui se réclament d'une gauche qui se dit radicale. Mais bien entendu, vous pouvez écouter même si vous ne vous retrouvez pas dans ces catégories. Amis écolos donc et tous les autres. Dans vos textes, propos, actions, revendications, on trouve souvent la référence à un changement radical de nos modes de vie et d'organisation sociale. Cela est fort bien et je ne peux qu'y souscrire à 100%. Cependant, je note que l'on trouve très peu de références à un changement d'une autre importance et sans lequel, à mes yeux, les changements sociaux et de modes de vie sont voués à rester marginaux. Je veux parler ici d'un changement radical de l'organisation politique. J'entends même affirmer que les gouvernements, les États, pourraient aider à propulser ce changement de mode de vie et d'organisation sociale que vous appelez de vos voeux. Pour les plus audacieux, il suffirait pour cela de changer de gouvernement. Cette posture semble faire fi de la réalité du lien qui unit, depuis son origine, la démocratie représentative et le capitalisme, son productivisme forcené et le diktat de l'argent sur nos vies. Je me permets donc un petit rappel historique. Le régime de démocratie représentative est né historiquement peu de temps avant le grand décollage industriel et financier de la première moitié du XIXe siècle. Et il a lui-même produit la superstructure génétique, idéologique et réglementaire du capitalisme industriel et donc ses fondations. Ce cadre politique-là a été inventé par la bourgeoisie révolutionnaire afin de renouveler la domination et de la moderniser. Une classe dominante enchâssait une autre, la noblesse, avec la même finalité de s'approprier le pouvoir suprême de manière à orienter la société vers la pleine réalisation de ses intérêts et de son idéologie. La classe bourgeoise avait besoin d'être politiquement dominante pour favoriser et protéger le développement du capitalisme industriel et de son financement. En France, c'est par la Révolution républicaine qu'elle s'appropria le pouvoir d'État. Mais ailleurs, les monarchies ont pu devenir politiquement compatibles avec le même capitalisme. Ce dernier nécessite un État centralisé aux mains de la bourgeoisie. Peu importe en fait qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république. L'élection, le suffrage dit universel et l'appellation démocratie représentative, c'est le système qui a permis de faire accepter par le peuple cette construction économique et sociale dans la durée. L'État garantissait la pérennité du système et, par son interventionnisme, il le protégeait politiquement. Il régulait les contradictions et les crises fatales qui appartiennent à la logique du capitalisme. L'idéologie dite libérale, qui vise le développement de plus en plus autonome du capitalisme et la soumission générale aux lois de cette économie, s'est développée à partir du milieu des années 70, après une phase d'interventionnisme d'État, et elle a trouvé le moyen d'en piéger beaucoup par son vocabulaire. Assimilant libéralisme économique, la liberté du capital et de ses détenteurs, et liberté avec un grand L. Cette ultra-libéralisation, qui par ailleurs est bien loin de supprimer tout interventionnisme, on le voit très bien en cette période de retour d'un État protecteur qui manie tour à tour la carotte et le bâton. Le retrait relatif de l'État, donc, ne signifie en rien sa neutralité idéologique. Cette neutralité, ce retrait, c'est même la fonction dévolue à l'État dans la logique du développement capitalisme. J'ai remarqué, amis écologistes, transitionnistes ou de gauche radicale, que vous êtes prompt à mettre en cause dans l'expansion de cette logique capitaliste libérale des lobbies qui seraient extérieurs aux États. Que les pauvres États ne pourraient rien face à eux, qu'ils font en quelque sorte ce qu'ils peuvent, pris en otage par l'économie et les contraintes financières, par leurs propres institutions. Ils seraient en quelque sorte victimes d'une mondialisation économique et de son institutionnalisation. C'est oublier un peu vite qu'en fait, ce sont bien les États qui ont en réalité construit pas à pas, partout, cette mondialisation, avec le bras idéologique armé d'institutions internationales auxquelles il participe et au travers desquelles il se coordonne. OCDE, FMI, Banque mondiale, les instances de pouvoir européennes et avec le fil continu de leurs grands sommets, G7, G8, Davos, OTAN, Bilderberg et j'en passe. Ils seraient étonnamment victimes de ce dont ils sont convaincus, de ce qu'ils font et installent solidement en adéquation avec leurs convictions. Pourtant, leur détermination est totale lorsque sont mis en cause des intérêts économiques, énergétiques et stratégiques. Je pense que c'est se voiler la face que de penser l'incapacité des États à agir. Au contraire, les États ont une fonction très proactive qui vise toujours à empêcher les transformations trop radicales. Et ils ont tous les moyens à leur disposition pour cela. Moyens financiers, exécutifs, législatifs et répressifs. Ils font le droit, ils peuvent mobiliser l'armée, faire la guerre, surveiller et contrôler la population et punir. Les faits montrent qu'ils n'ont aucun problème pour prendre des décisions fortes et autoritaires lorsque la logique du système et de son ordre supérieur l'exige. Mais cette logique, faut-il le rappeler, est totalement contradictoire avec l'attention à la planète et la sobriété dont vous vous réclamez, puisqu'elle repose sur les besoins impérieux d'exploitation et de croissance, d'extension des marchés et donc de marchandisation de tout. Bien sûr, devant la multiplication des études et des alertes et face aux signes tangibles d'atteinte à la biodiversité et au climat, lorsqu'il n'est plus possible de nier l'évidence, nos gouvernements en viennent à évoquer de temps à autre la nécessité d'une attention à la planète, de verdir le productivisme. Ils organisent des sommets pour la Terre fort claironnés, dont on connaît la suite concrète des promesses faites et des accords signés. Comme l'essentiel de ce qui nous est montré du spectacle politique, cela relève de l'art de la politique politicienne en régime d'élection de représentants à qui est donné un blanc-seing pendant 4 ou 5 ans. Il s'agit de le faire renouveler de manière incessante par les urnes. Le spectacle de la politique politicienne qui nous est abondamment offert est un art nécessaire à tous les échelons territoriaux, nationaux et internationaux. Il s'agit de nous maintenir dans le spectacle à distance maximale des choix politiques à faire, des choix majeurs qui concernent notre société commune, nos existences personnelles. Il s'agit d'en faire des non-choix en nous maintenant hors du champ de la décision. Il s'agit de nourrir notre consentement passif à toute cette réalité antidémocratique d'un peuple non souverain. L'idée même de l'intelligence collective et d'une appropriation collective du politique est rendue inimaginable. In fine, il s'agit pour les catégories dominantes de repousser indéfiniment le risque d'un changement radical qui conduirait pour eux à la perte du monopole du pouvoir suprême. Elles ont montré leur capacité à y faire obstacle, y compris en absorbant, en détournant, en vidant de leur substance subversive des mouvements prônant un changement radical. Il n'est qu'à voir ce que sont devenus le mouvement mutualiste et coopératif, le syndicalisme, l'esprit associatif et le bénévolat. Or, encore une fois, je constate que cette conception molle qui blanchit le pouvoir politique s'est quasi généralisée, ou en tout cas fortement répandue dans les milieux écologistes et de la gauche dite radicale, qui exclut de leur lutte le changement d'organisation politique et accepte la démocratie représentative, soit en l'approuvant ouvertement, il suffirait de changer de gouvernement, voire pour certains de constitution, soit en s'installant dans une posture de transition sociale et spirituelle, à l'exemple des colibris. Tout cela sous couvert de rechercher la meilleure efficacité face à l'ampleur et à l'urgence du changement. Il est de bon ton de parler de pragmatisme, de bon sens, de dépasser les idéologies. Bien sûr, il arrive que les gouvernements concèdent quelques miettes de réforme. Mais le but est toujours le développement de la logique productiviste capitaliste, quels qu'en soient les dégâts sociaux et écologiques. Bien sûr, des maires et des élus sont sincères et initient des actions intéressantes par-ci et par-là. Pour autant, faut-il se contenter de ce regard microscopique sur le monde et se voiler la face sur la réalité globale de la démocratie représentative telle qu'elle existe ? Faut-il se rassurer sur ce que l'on fait et comment on le pense, tandis qu'on ne parvient guère à sortir de l'entre-soi spirituel, politique ou militant ? Penser et dire « on voudrait tant que les élus comprennent, on aimerait bien qu'ils impulsent, qu'ils soutiennent ». Cela pourrait être louable s'il s'agissait d'une chose possible avec le régime politique actuel, si la réalité présente et historique nous montrait suffisamment d'exemples de cette ouverture, de cette neutralité idéologique et fonctionnelle de l'État. Cela pourrait même être relativement drôle s'il s'agissait d'une discussion qui dispose encore du temps, de la légèreté, des hypothèses et des interprétations timides, ignorantes de l'histoire et s'amusant avec le déni. La réalité de la dégradation et des régressions l'emporte sur les mouvements alternatifs, sur les intentions et les actions de résistantes militantes et sur les créations alternatives en tout genre. Dans un entre-soi plaisant, dans le focus proposé par des films comme « Demain »,« Nouveau monde »,« Après-demain », etc., nous pouvons l'oublier. Nous pouvons refuser de voir que nous aussi, nous sommes pleinement concernés par une dégradation globale continue qui exige le moins possible de naïveté, d'erreur et d'aveuglement dans ces temps risqués d'une gauche agonisante par automutilation de ses racines et d'une radicalité écologiste à son tour apprivoisée. En résumé, c'est une erreur de penser que la démocratie représentative permettrait d'agir réellement tant sur le plan social qu'écologique, tant sur le plan du bien général que sur celui du respect du vivant et de la planète. Remettre l'économie, l'argent, la compétition et les intérêts particuliers à leur place, bien au-dessous de nos grandes valeurs éthiques et sociales, ce n'est pas la fonction des gouvernements, ce n'est pas ce que font les États. Il est bien à craindre que ces positions ne fassent que freiner et retarder indéfiniment la transition nécessaire. Pour ma part, je pense que la transition en tant que changement radical à la mesure des défis considérables qui sont les nôtres ne pourra réussir que si elle est vraiment favorisée et rendue prioritaire par décision d'une démocratie réelle, populaire, la plus participative et directe possible. Et je gage que seul un peuple réellement souverain rendrait cette transition possible. Encore faut-il ne pas ou ne plus céder à ce sacré pan de l'idéologie dominante, vieux comme la domination, qui assure que le peuple est ignare, versatile, sinon méprisable, voire dangereux. Ce postulat élitiste, partagé depuis toujours par les catégories sociales supérieures et inculqué à la majorité, est une clé du verrou qui enferme nos imaginaires et nos actions dans la prison d'une collaboration ténue et têtue, en particulier électorale. Par souci de prudence, de pragmatisme et de résultat, on se refuse un grand pas de côté, qui suppose certes de pénétrer en terre relativement inconnue, mais qui n'est plus cette illusion toujours déçue. La domination d'un chef, d'un groupe, d'une classe, d'une élite, c'est une vieille histoire. Mais un grand virage est nécessaire, un de ceux que l'humanité a opéré quelquefois dans son histoire et que notre présent appelle avec une relative urgence. Je vous laisse sur ces quelques réflexions et vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique.